La France est championne du monde de consommation d'antidépresseurs. Pas de football, malheureusement, mais de consommation d'antidépresseurs. C'est un fait bien connu. En moyenne, les Français consomment 3 fois plus de médicaments psychotropes que n'importe quel autre pays de l'Union européenne. Peut-être que vous faites partie de ces 5 millions de personnes dans notre pays qui ont besoin de ces pilules pour faire face à un profond mal-être quotidien. Mais si ce ne sont pas des pilules, c'est peut-être un autre genre d'antidépresseur que vous consommez. Des jeux vidéo, par exemple, ou des émissions de divertissement à la télé, ou bien l'alcool, peut-être, ou la cigarette, ou peut-être même le sport, ou la nourriture sont pour vous des moyens de détourner votre attention du fait que nous sommes incapables d'affronter certaines réalités propres à notre existence, les réalités les plus douloureuses propres à notre existence, comme la solitude, comme la mélancolie, comme pour certains la souffrance physique et pour tout le monde la mort. Si vous êtes d'un naturel un peu dépressif, comme c'est d'ailleurs mon cas, et que vous avez du mal à refouler ce mal-être profond, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce matin, Dieu vous demande d'arrêter d'essayer de refouler ce mal-être. Son désir au Seigneur ce matin, c'est que vous touchiez le fond et que vous l'entendiez alors vous dire: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et si au contraire vous êtes d'un naturel jovial et optimiste et que vous ne savez pas ce que c'est que d'être abattu ou découragé, alors j'ai plutôt une mauvaise nouvelle pour vous ce matin. Dieu veut vous dépouiller de tout ce qui vous empêche de prendre la mesure de votre véritable condition misérable. Son désir au Seigneur, c'est de vous pousser au désespoir afin de vous attirer à lui. Et dans le texte qu'on va lire dans un petit instant maintenant, comme je disais, on approche de la fin de la prophétie d'Amos. On approche de la fin de la prophétie d'Amos. Pendant 8 chapitres, Dieu s'en est pris aux Israélites à cause de leur désobéissance. D'accord? À cause de leur indifférence, à cause de leur présomption. Et en guise de châtiment, qu'est-ce qu'on a appris pendant 8 chapitres? Que Dieu allait réaliser toutes les malédictions dont il a été question depuis des siècles, à ce moment-là, dont il a été question depuis la loi de Moïse en ce qui concerne le peuple au cas où il désobéirait à l'Alliance. Et si jamais ça vous intéresse de lire ces malédictions, elles occupent tout un chapitre dans le livre du Deutéronome, chapitre 28. C'est très, j'ose à peine dire édifiant, mais ça vaut le détour. Lisez le chapitre 28, pas maintenant, mais plus tard du livre du Deutéronome et vous verrez de quoi je parle. Dieu, en tout cas, est fidèle à sa parole et conformément à ce qu'il avait annoncé longtemps à l'avance, il va réaliser toutes ses malédictions. C'est ce qu'on a appris depuis le début du livre du prophète Amos. Dieu va retirer au peuple ses richesses, sa sécurité, son pays, sa santé. Il va décimer la population, il va même arrêter de leur parler. C'est la dernière chose qu'on a vue. Il y a 15 jours, Dieu va arrêter d'envoyer sa parole, il va arrêter d'envoyer des prophètes, il va se taire. Et ce sera comme une famine, mais pas une famine de nourriture, une famine de la parole de Dieu. Et maintenant, on approche de la fin de la prophétie, dernier chapitre, chapitre 9, et on va voir que Dieu, maintenant, compte finir le travail. Il va finir de dépouiller son peuple, jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus rien. Et son but, aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est de pousser son peuple au désespoir. De le pousser au désespoir. Mais la raison en est simple, c'est parce que dans le désespoir du peuple se trouve aussi son salut. Aussi ce matin, Dieu veut peut-être nous pousser, vous et moi, à un désespoir salutaire. Regardons le texte pour mieux comprendre cette idée. Donc Amos chapitre 9, on va lire les versets 1 à 6. Je vis le Seigneur qui se tenait sur l'autel, et il dit: Frappe le chapiteau et que les seuils s'ébranlent et brise-les sur leur tête à tous. Je ferai périr leur progéniture par l'épée. Parmi eux, le fugitif ne parviendra pas à s'enfuir. Aucun rescapé ne s'échappera. S'ils pénètrent dans le séjour des morts, ma main les en arrachera. S'ils montent aux cieux, je les en ferai descendre. S'ils se cachent au sommet du Carmel, je les y chercherai et je les saisirai. S'ils se dérobent à mes regards dans le fond de la mer, là j'ordonnerai aux serpents de les mordre. S'ils vont en captivité devant leurs ennemis, là j'ordonnerai à l'épée de les faire périr. J'aurai l'œil sur eux. pour leur malheur et non pour leur bonheur. Le Seigneur, l'Éternel des armées, touche la terre et elle s'effondre. Tous ses habitants sont dans le deuil. Elle monte tout entière comme le Nil et elle s'affaisse comme le fleuve d'Égypte. Il a bâti sa demeure dans les cieux et fondé sa voûte sur la terre. Il a appelé les eaux de la mer et les répand à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, il y a des passages comme celui-ci où tu tiens un langage véhément. Et depuis que nous étudions le livre du prophète Amos, nous voyons, Seigneur, quel genre de langage tu emploies pour dénoncer le péché, pour condamner le mal, et parfois pour t'en prendre à ton peuple, parce que tu es un Dieu juste et saint qui ne tolère pas le mal. Merci pour ta parole qui nous remet toujours à notre place. Donne-nous la grâce ce matin d'être réceptifs à tout ce que tu veux nous dire. Et utilise cette parole, Seigneur, pour nous édifier, pour nous encourager dans la foi. Nous le prions au nom de Jésus. Amen. Dieu veut donc nous pousser à un désespoir salutaire. Un désespoir salutaire. Premièrement, en nous montrant que notre relation avec lui est brisée et qu'il nous est impossible de recouvrer par nous-mêmes ou de restaurer ou de rétablir par nous-mêmes la faveur de Dieu. Impossible. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le texte? La première chose que Dieu dit à Amos, c'est qu'il lui commande de détruire l'édifice emblématique de sa relation avec le peuple, de la relation de Dieu avec le peuple. Et cet édifice, évidemment, vous le savez, c'est le temple lui-même. Il faut imaginer la scène, d'accord? Dieu est debout, ou le Seigneur est debout sur l'autel, et il est devant l'entrée du temple de Jérusalem, une entrée qui est faite de deux colonnes de bronze massives, qui font pratiquement 16 mètres de haut, d'accord, c'est l'équivalent d'un immeuble de 5 étages à peu près, un peu comme l'immeuble sous lequel nous nous trouvons actuellement. Et ces colonnes sont elles-mêmes surmontées d'un chapiteau d'environ 2,50 mètres de haut. Donc on a un édifice qui fait presque 20 mètres de haut. Et là, Dieu ordonne que ce chapiteau soit frappé au point que les fondations de ces colonnes tremblent, s'ébranlent et que tout l'édifice s'effondre sur la tête des malheureux Israélites qui sont réunis là, dans ce lieu de rendez-vous privilégié pourtant avec Dieu. C'est une vision terrible, hein. Il ne faut pas se voiler la face, hein. Mais ce que Dieu est en train de faire comprendre à son peuple ici, c'est que leur relation avec lui est brisée. Leur relation avec Dieu est brisée et il est impossible qu'elle soit rétablie de façon artificielle ou rituel. Impossible. Voilà ce qu'il est en train de leur faire comprendre. Autrement dit, la rupture relationnelle entre Dieu et son peuple, elle est profonde. Elle est très profonde. Le temple lui-même, le temple de Jérusalem, le temple de Salomon lui-même, ne peut plus rien faire, ne peut rien faire pour le peuple. Et dans la mesure où les Israélites étaient enclins à placer leur confiance dans un édifice de pierre, de briques et de ciment, dans la mesure où ils étaient enclins à faire du temple lui-même un objet de foi, en vertu duquel ils prétendaient pouvoir recouvrer la faveur de Dieu, bien Dieu ordonne que le temple lui-même, qui à ce moment-là est devenu comme une idole, hein, il ordonne que le temple lui-même soit détruit, ce qui se réalisera d'ailleurs dans l'histoire un peu plus d'un siècle plus tard, lors de l'invasion babylonienne. Mais Dieu est en train de dépouiller le peuple. Il est encore en train de dépouiller le peuple. Il a commencé de le faire depuis le début du livre d'Amos, du prophète Amos, et il continue de le faire. Il lui enlève au peuple même ce qui était le plus emblématique de leur relation privilégiée avec Dieu, afin de leur montrer à quel point cette relation est sévèrement, mais sévèrement compromise, sévèrement abîmée, détériorée. Imaginez une femme qui serait profondément amoureuse de son mari, d'accord ? Mais qui découvre un jour que son mari, depuis plusieurs années, la trompe avec un autre homme. Avec une autre femme. Ça pourrait être un autre homme, ça serait pire encore, mais avec une autre femme. Cet adultère, évidemment, blesse leur relation au niveau le plus profond et le plus intime. Au point où l'épouse, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne veut plus dormir dans le même lit que son mari. Elle ne peut plus dormir dans le même lit que son mari. Elle ne peut plus porter les bijoux que son mari lui avait offerts pendant les premières années de mariage. Elle ne peut plus même regarder les albums photos, l'album photo de leur voyage de noces. Elle ne peut plus lire les lettres d'amour. Elle les jette à la poubelle, n'est-ce pas? Quelque chose de profond a été brisé et cette chose ne peut pas être réparée de façon artificielle ou rituelle. La femme rejette tout ce qui est emblématique de sa relation avec son mari. Est-ce que ça veut dire que la femme qui a été trompée n'aime pas son mari? Bien au contraire, cela révèle à quel point elle l'aime au contraire. Et dans le texte aussi, Dieu rejette ce qui est emblématique de sa relation avec son peuple, non pas parce qu'il n'aime plus son peuple, mais justement parce qu'il l'aime et parce qu'il accorde une valeur immense à cette relation qui a été sévèrement gâtée à cause de l'infidélité du peuple. Et c'est précisément parce que Dieu accorde une immense valeur à sa relation avec le peuple qu'alors le péché apparaît comme quelque chose de si grave et de si ignoble dans la Bible. Votre péché et mon péché portent atteinte à notre relation avec Dieu. Une relation qui a une immense valeur à ses yeux, qui compte énormément à ses yeux. Votre péché et mon péché portent atteinte à cette relation. Et c'est pour cette raison que Dieu déteste à ce point le péché. C'est parce que il nous aime. Dieu veut nous faire comprendre ici que notre péché, notre indifférence à lui, notre désir d'autonomie, tout ce que nous faisons, disons ou pensons, qui est contraire à sa volonté, tout cela le blesse si profondément. Tout cela blesse Dieu si profondément qu'il nous est impossible de recouvrer par nous-mêmes sa faveur. Pour être clair, il n'y a rien que vous puissiez faire pour gagner la faveur de Dieu. D'accord ? Est-ce que je peux le dire de façon plus radicale que ça ? Il n'y a rien que vous puissiez faire pour gagner la faveur de Dieu. Ni argent, ni médicaments, ni bonnes actions, ni violence, ni ascétisme, ni aucun autre rite religieux ne pourra jamais vous permettre d'être réconcilié avec Dieu, que ce soit clair. Et ça, c'est l'effet désespérant du péché dans notre vie, dans la vôtre comme dans la mienne. L'effet désespérant du péché dans notre vie. Si vous venez à l'église pour gagner la faveur de Dieu, si vous pensez pouvoir vous confier dans votre baptême ou dans la Sainte Cène pour recouvrer cette relation qui est profondément brisée, permettez-moi de vous dire, et peut-être de faire tomber une illusion aujourd'hui, ça ne marchera pas. Comme Amos l'a déjà dit quelques chapitres plus tôt, vous vous souvenez peut-être de ce passage, Dieu déteste les cantiques des présomptueux, aussi pieux soient-ils ces cantiques. Dieu les déteste, s'ils proviennent d'hommes et de femmes présomptueux. Est-ce que vous êtes prêts à accepter cette mauvaise nouvelle ce matin? Je vous rassure, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, mais au moins celle-ci, est-ce que vous êtes prêts à l'accepter? Ça ne s'arrête même pas là, regardons la suite du passage. Dieu veut nous pousser à un désespoir salutaire, deuxièmement, en nous montrant qu'il est en colère à cause de nos péchés et qu'il nous est impossible d'échapper à son jugement. Alors après avoir fait comprendre à son peuple que leur relation était brisée et qu'il était impossible pour eux de la rétablir de façon artificielle ou rituelle, Dieu maintenant fait comprendre au peuple à quel point il est déterminé à punir son péché. À quel point Dieu est déterminé à punir le péché. Toute cette section entre le verset 1 et le verset 4 est encadrée par deux affirmations catégoriques. Et d'un point de vue rhétorique, surtout dans l'original, c'est très frappant. La première affirmation qu'on trouve dans la fin du verset 1, littéralement, « Celui qui s'enfuit ne s'enfuira pas, celui qui échappe n'échappera pas. » Et ensuite, à la fin du verset 4, « J'aurai l'œil sur eux pour leur malheur et non pour leur bonheur. » C'est Dieu qui parle. Entre ces deux affirmations radicales, vous l'avez vu, Dieu va utiliser ensuite un langage imagé, hyperbolique, pour dire tout simplement qu'il est absolument impossible de se soustraire à son jugement, ni en gravissant les plus hautes montagnes, ni en se cachant au fond de l'océan Indien, ni en montant dans les airs, au-dessus des nuages, ni en s'ensevelissant au plus profond de la terre dans une mine au Chili, par exemple. Nous ferions bien de comprendre ce que Dieu est en train de dire ici, parce qu'aujourd'hui, le concept de justice souffre d'un sérieux manque de crédibilité, n'est-ce pas? Combien de criminels ne se font jamais attraper par la police? Combien d'entre eux se promènent aujourd'hui impunément? Et quand bien même ils se font attraper, combien de fois sommes-nous choqués devant notre poste de télévision, notre poste de radio, d'apprendre à quel point la justice s'est montrée magnanime avec des meurtriers ou des pédophiles et qui ensuite vont recommencer, qui vont récidiver. Il faut comprendre que la justice de Dieu n'a rien à voir avec ça. La justice de Dieu n'a rien à voir avec ça. Elle n'a rien à voir avec la justice des hommes. Avec Dieu, impossible de se réfugier au Brésil ou en Argentine ou que sais-je encore. Impossible de disparaître dans la nature. Impossible de changer d'identité et de se déguiser. Impossible. Impossible même de se soustraire à sa justice en se donnant la mort, comme par exemple Hitler, un exemple fameux dans l'histoire, qui s'est donné la mort et qui n'a jamais répondu sur terre de ses crimes. Mais avec Dieu, impossible. Même en se donnant la mort, on ne se soustrait pas à sa justice, on n'échappe pas à sa justice. La justice de Dieu est non seulement parfaite, mais les moyens qu'il met en œuvre pour l'appliquer, sa justice, sont également parfaits. Il est un juge parfait et il a parfaitement la capacité, il a une capacité parfaite à appliquer parfaitement sa justice, qui est parfaite. Dans le texte, le but évidemment est de nous terrifier. Encore une fois, il ne faut pas se voiler la face, c'est ce que le texte est en train de dire. Le but est de nous terrifier, nous sommes dans une situation désespérée à cause de notre péché. Qu'est-ce que vous diriez si Dieu vous disait « j'ai l'œil sur toi pour ton malheur et pas pour ton bonheur » Notre relation à Dieu est brisée. Non seulement il nous est impossible de la rétablir par nous-mêmes, mais en plus Dieu est déterminé à parfaitement punir notre péché et il nous est impossible d'échapper à son jugement. C'est comme si vous étiez en ce moment même en plein territoire hostile, en temps de guerre, avec 5 projecteurs braqués sur vous, une trentaine de soldats adverses qui vous tiennent en joue, et puis des hélicoptères et des avions qui survolent la zone, et puis peut-être quelques colonnes de tanks juste pour être sûr, d'accord ? Eh bien, vous n'avez nulle part où vous cacher, nulle part où vous êtes, où vous enfuir. Vous êtes cerné et vous êtes désespéré. Le psalmiste le dit au verset 100, dans le psaume 139, il dit ceci, « Où irai-je loin de ton esprit ?» Il parle à Dieu. « Où irai-je loin de ton esprit ? Et où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y es. Et si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. » Dieu est en colère contre votre péché, il est en colère contre mon péché. Et il nous est impossible d'échapper à son jugement. Nous sommes totalement vulnérables et nous ne pouvons rien y changer par nous-mêmes. Si cela vous déprime ou si cela vous désespère, c'est bien. C'est bien. C'est très bien. C'est le but. C'est le but de ce texte. Dieu est en train de nous dépouiller de toutes ces choses dont nous faisons usage pour détourner notre attention du fait qu'en réalité nous sommes incapables d'affronter la réalité douloureuse de notre existence. Dans ce texte, Dieu veut que nous touchions le fond. Il veut que son peuple touche le fond. Et il veut que nous prenions la mesure de notre véritable condition misérable. Il veut nous pousser au désespoir afin de nous attirer à lui. Il veut nous pousser au désespoir afin de nous attirer à lui, comme on va le voir dans la suite et la fin de ce texte. En effet, Dieu veut nous pousser à un désespoir salutaire, troisièmement et dernièrement, en nous dépouillant de tout afin de nous donner une conscience aiguë de qui il est et de ce qu'il a fait pour nous. Lorsqu'on arrive à la fin du verset 4, le peuple a été totalement dépouillé. Alors là, il ne lui reste vraiment plus rien. Le peuple est tenté de se donner la mort pour échapper au jugement de Dieu, mais même ça, ça ne marchera pas. Il ne lui reste plus rien. La prophétie d'Amos a tout enlevé au peuple. Conformément, je le disais tout à l'heure, aux malédictions qui étaient prévues depuis longtemps dans la loi de Moïse, Deutéronome chapitre 28, tous les bienfaits particuliers de l'alliance entre Dieu et son peuple qu'on a découvert tout au long des pages de l'Ancien Testament, tout cela est compromis dans les pages du prophète Amos. La terre promise, on l'a vu, sera enlevée aux Israélites. Ça, c'est un bienfait de taille qui est enlevé aux Israélites. La terre promise, ils vont la perdre. Le peuple sera décimé au point où la fameuse descendance qui était censée être aussi nombreuse que les grains de sable sur le bord de la mer, ça sera plus grand chose. Ça sera réduit presque à rien. Et troisièmement, le temple lui-même, signe emblématique de la relation privilégiée entre Dieu et son peuple, signe même de la présence de Dieu au milieu de son peuple, le temple lui-même va être détruit. Qu'est-ce qui va rester ? C'est cette question qui s'impose à la fin du verset 4. Que reste-t-il ? Que reste-t-il ? Et ce n'est pas un hasard si à ce moment précis, Amos livre à ses destinataires la troisième et dernière doxologie que l'on trouve dans sa prophétie. Une doxologie, c'est une formule destinée à magnifier Dieu, comme quand on dit gloire à Dieu. D'accord, ça c'est une doxologie. Et là, on en trouve une. Il y en a trois dans le livre du prophète Amos, et ici c'est la troisième et la dernière, qui commence au verset 5, qui couvre le verset 5 et 6, les versets 5 et 6. C'est pas un hasard si on les trouve précisément à ce moment-là. Dieu a poussé son peuple au désespoir, et maintenant, il se présente à son peuple comme étant le Dieu de l'univers tout entier. L'éternel des armées qui touche la terre et qui, elle s'effondre. Le Dieu de l'univers tout entier. Un Dieu qui n'a besoin ni de temple, ni de peuple. Parce que le ciel est son trône et la terre son marchepied, comme le dit le prophète Ésaïe. Il est le juge souverain qui applique puissamment et irrésistiblement ses parfaites sentences sur la terre. Il le décide et il appelle les eaux de la mer et il les répand à la surface de la terre. Il fait s'effondrer la terre et tous ses habitants sont dans le deuil. La terre monte comme le Nil et elle s'affaisse comme le fleuve d'Égypte. Ça, c'est Dieu, le juge souverain, qui applique ses sentences de façon irrésistible et puissante sur terre. Il tient le monde dans sa main, il maintient toutes choses par sa parole puissante, nous dit l'Écriture. Mais surtout, surtout à la fin du verset 6, l'Éternel est son nom. L'Éternel, le saint nom de Dieu, Yahvé en hébreu, le Dieu du buisson ardent, le Dieu de Moïse, le Dieu de l'Exode. Le Dieu qui est intervenu dans l'histoire pour délivrer son peuple de l'esclavage en Égypte. Le Dieu qui demeure fidèle aux promesses qu'il a faites aux patriarches, à commencer par Abraham et ses enfants, et Moïse également, et ainsi de suite. Le Dieu qui a un plan de rédemption pour le monde. Le Dieu qui ne revient pas sur ses desseins éternels. Le Dieu qui ne change pas d'avis. Mais devant ce peuple humilié, sur un territoire dévasté, au milieu des ruines du temple, là où ces deux grandes colonnes se sont effondrées et que tout le monde s'est pris les briques sur la tête, si j'ose dire, où se trouve le Seigneur à ce moment-là? Regardez le texte. Amos nous a dit où il se trouvait, le Seigneur. Il nous l'a dit au verset 1. Il est debout sur l'autel. Il se tient sur l'autel. Et cet autel, c'est pas n'importe quoi, on le sait peut-être pas en lisant le texte comme ça, mais cet autel, c'est l'autel des holocaustes, là où on devait brûler régulièrement des sacrifices d'expiation pour les péchés du peuple, un autel qui se trouvait devant l'entrée du temple. C'était un immense autel en bronze de 9 mètres, imaginez ça, 9 mètres sur 9, un grand carré de 9 mètres sur 9, élevé à peu près à 4,50 mètres du sol. Un énorme, pardonnez-moi l'expression, mais ça aurait ressemblé à un énorme barbecue. Parce qu'on y mettait du bois à brûler et une grille par-dessus, puis on brûlait les sacrifices là-dessus. Des sacrifices d'expiation pour les péchés du peuple. Et c'est là que se trouve le Seigneur, debout là-dessus. Quand Amos dit qu'il vit, je cite, le Seigneur qui se tenait sur l'autel, moi je ne sais pas ce qu'Amos a vu exactement. Quand il dit, je vis le Seigneur qui se tenait sur l'autel. Je ne sais pas ce qu'il a vu exactement, mais ce que je sais, c'est que l'apôtre Jean dit dans son évangile que personne n'a jamais vu Dieu. C'est Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, qui l'a fait connaître. C'est aussi l'apôtre Jean qui dit dans le livre de l'Apocalypse que Jésus est l'agneau immolé dès la fondation du monde, l'agneau brûlé dès la fondation du monde. Il est l'agneau de Dieu, dit Jean également en introduction à son évangile, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il parle de Jésus, le Fils éternel de Dieu. Et Dieu est venu en effet, c'est ce que la Bible nous apprend, Dieu est venu par son Fils délivrer des hommes, des femmes et des enfants qui étaient en proie à la perdition et au désespoir à cause de leurs péchés. Il est venu en personne mourir à la place de tous ceux qui se confient en lui. Il s'est livré, il est mort sur la croix comme un sacrifice d'expiation offert sur l'autel des holocaustes. Pourquoi il a fait ça? Mais parce que même si notre relation à Dieu est brisée, même si nous ne pouvons rien faire pour recouvrer sa faveur, même si Dieu est en colère contre nos péchés, et même s'il est impossible pour nous d'échapper à son jugement, mais Dieu, lui, demeure fidèle à ses promesses. Et il a voulu, de toute éternité, nous faire grâce. Et il n'est pas revenu sur sa parole. Vous voyez que Dieu veut nous dépouiller de tout afin de nous donner une conscience aiguë de qui il est et de ce qu'il a fait pour nous. L'actualité nous livre une formidable illustration de ce principe. Je suis sûr que vous avez tous suivi cette semaine le sauvetage de 33 mineurs chiliens. Ah oui, bloqués depuis plus de 2 mois au fond d'une mine à presque 700 mètres sous terre. coupés du monde, dans le noir, au fond de leur mine, ces hommes n'en menaient pas large, si j'ose dire. Plusieurs d'entre eux ont dû goûter, peut-être pour la première fois, au désespoir. Voilà des hommes dépouillés de tout, qui touchent littéralement le fond, si j'ose l'expression. Quand on les a libérés, je n'en ai pas vu un seul qui est sorti en disant « Yes ! Qu'est-ce que j'ai été bon ! Qu'est-ce que j'étais fort pour me sortir de là !» Pas un seul, non ? J'ai plutôt vu des hommes tantôt verser des larmes de reconnaissance, tantôt pousser des cris de joie. J'ai vu des hommes embrasser leurs proches comme s'ils revivaient. J'ai vu des hommes prendre le temps de serrer la main à chacun des ingénieurs et des ouvriers qui s'étaient mis à pied d'œuvre, qui avaient été à pied d'œuvre pour les sortir d'une mine qui était devenue leur tombeau. J'ai entendu un mineur, le deuxième d'ailleurs, qui est sorti, peut-être que vous l'avez entendu également, témoigner devant les caméras et dire que bien qu'il avait déjà vécu près de 40 ans, ce jour-là, c'était pour lui comme s'il naissait de nouveau. Dieu veut nous pousser à un désespoir salutaire, parce qu'en nous dépouillant de tout, il nous donne une conscience aiguë de qui il est et de ce qu'il a fait pour nous. Nous étions dans une situation désespérée, séparés de Dieu, morts dans nos péchés, incapables aussi bien de recouvrer sa faveur que d'échapper à son jugement. Mais Dieu s'est tenu sur l'autel des holocaustes en Jésus-Christ. Et il a expié nos fautes pour nous en délivrer, pour nous rendre justes à ses yeux, pour nous réconcilier avec lui-même, pour nous faire sortir du gouffre et nous faire vivre éternellement en lui. En introduction, on parlait de ces divers antidépresseurs dont nous sommes en France les champions de la consommation. On a parlé des pilules psychotropes, mais on a parlé aussi de l'alcool, des jeux vidéo, de la télévision, du sport, etc., et d'autres divertissements, etc., etc. Toutes ces choses dont nous faisons usage pour détourner notre attention du fait que nous sommes en réalité incapables d'affronter certaines réalités douloureuses de notre existence, les réalités les plus douloureuses, comme la solitude, comme la mélancolie, le chagrin, la souffrance physique et bien entendu la mort. Mais plutôt que d'essayer de refouler ce mal-être, plutôt que d'essayer d'atteindre par des rites ou des artifices une vie joyeuse et optimiste, plutôt que de s'enorgueillir pour certains du fait qu'on n'est jamais abattu ni découragé. Ici dans le texte, Dieu nous invite plutôt à nous laisser entièrement dépouiller par lui et à accepter d'être entièrement dépouillé par lui au point de vraiment prendre la mesure de notre condition misérable. Telle est la réalité de notre existence. Elle est misérable. Arrêtons de nous voiler la face. Mais si Dieu veut nous pousser au désespoir, c'est parce que dans le désespoir se trouve aussi notre salut. Dieu veut nous pousser à un désespoir salutaire, c'est ce qu'on disait en introduction, un désespoir salutaire. Et pour terminer, je voudrais vous lire quelque chose que Martin Luther, le réformateur, a écrit. J'aurais pu vous citer un extrait, quelque chose qui avait été écrit par Soren Kierkegaard, et comme ça, je vous aurais montré combien je suis influencé par Jonah, qui aime beaucoup ce philosophe. Mais non, j'ai choisi Martin Luther, le réformateur allemand, dans un traité intitulé « La liberté du chrétien », qu'il a écrit, si je ne m'abuse, en 1520. Voici ce qu'il écrit. « La prédication de l'Évangile doit être telle que tu entendes ton Dieu te dire que toute ta vie et tes œuvres ne sont rien aux yeux de Dieu, mais que tu es destiné à la perdition éternelle, ainsi que tout ce qui est en toi. Si tu le crois vraiment, comme c'est ton devoir de le faire, il te faut désespérer de toi-même. Mais pour que tu sortes de toi-même, pour que tu échappes à toi-même, c'est-à-dire à ta perdition, Dieu te présente son cher fils Jésus-Christ, et il te fait dire par sa parole vivante et consolante que tu dois t'abandonner à lui avec une foi robuste et lui faire hardiment confiance. Alors, à cause de cette foi, tous tes péchés seront pardonnés. Tu triompheras de tout ce qui te perdait et tu seras droit véridique, apaisé, juste, et tu auras accompli tous les commandements. Tu te seras libéré en toutes choses. Amen.